on a des choses à dire. Une présentation de Luciedel Parizeau Cabinet d'assurance, Yannick Caisse, courtier immobilier Via Capital et le magazine Contact Affaires.
On est de retour et avec Hubert Vallée, on va jeter un œil, on va projeter maintenant. On est parti d'Ottawa, on est allé vers Québec, puis là, on va se projeter sur la planète au grand complet. Avec Hubert, on sait qu'on peut parler à peu près de tout ce qui se passe.
On voyage.
On voyage. Et on va surtout s'informer pour avoir, pas dire n'importe quoi, parce que là, on a beaucoup parlé, galvaudé, plein de choses sur les voyages de notre premier ministre Justin Trudeau, c'est loin d'être le même personnage. Justin Trudeau, au cours des dernières semaines, et particulièrement son voyage en Inde, qui fait beaucoup jaser. Hubert Vallée, bonjour.
Bonjour.
Hubert, le dernier voyage fait jaser parce que deux choses. Bon, les déguisements, ça c'est une chose. La première chose, les déguisements, c'est de s'acclimater. Mais c'est parce que c'est pas tous les premiers ministres qui ont fait ça, par exemple.
Non, aucun. Même son père, un petit peu, mais jamais cet excès.
Puis, on a vu quelques
Donc,
photos
c'est un
de.
Excès.
Largement, un excès ridicule, c'est ça qui est grand.
On a vu Stephen Harper déguisé un petit peu dans certaines photos qui ont circulé. C'était plus limité. Il est arrivé vers la fin, parce qu'il voulait se faire montrer
parce
plus sympathique.
Si on veut résumer, le voyage était un fiasco, selon les termes généraux, pour trois raisons. Confusion entre le privé et le public, ensuite les déguisements, que les gens ont trouvé ridicules, et la question sikh, dans laquelle il a mis ses deux sabots allègrement.
Ouais, ça, je pense que c'est de ça qu'on doit traiter principalement, parce que c'est ça le plus grave, finalement, parce que on en parlait avec Louis Plamondon tantôt. Il est allé jusqu'à aller parler de la violence des indépendantistes, même ici. Alors que, bon, il était haut comme trois pommes quand ça s'est passé, là. Il avait à peine six ans, je sais pas quel âge il avait, en 1970, là, mais il était pas vieux. On se souvient des photos où son père lui-même le promenait quand même pour le montrer, tout comme il a fait avec ses enfants. Il a fait rire de lui d'ailleurs dans les téléjournaux français avec ça. Mais de comparer la violence de ce qui a pu se passer avec les Sikhs et les Indiens en Inde et de ce qui s'est passé dans les années 70 au Québec. Il y a quand même une marge assez large.
Ça s'explique par la question sikh. Pour faire une histoire très courte, les gens se demandent c'est quoi les sikhs. C'est une minorité extrêmement importante aux Indes, qui date du 15e siècle, mélange d'hindouistes et d'islam, qui ont des temples superbes, Amritsar notamment. Ils sont concentrés au Panchad. Ils sont nombreux aux Indes, terriblement influents. On les voit avec, évidemment, leur poignard, le turban et une barbe impeccablement frisée. Ils condamnent les sectes et ils sont extrêmement combatifs. C'étaient les meilleurs soldats de l'armée britannique et de l'armée des Indes. Évidemment, les gens du Panchad ont réclamé en 84, une grande partie d'entre eux, l'indépendance, ce qu'Indira Gandhi a refusé. Ça a entraîné la violence et le bombardement du temple sacré, le fameux temple d'art d'Amritsar. Ils ont écrasé la révolte. Quelques jours plus tard, Indira Gandhi est assassinée par ses gardes du corps sikhs. Ensuite, la violence a subsisté, assassinat de Ranjit Gandhi, le fils d'Indira, puis ensuite des massacres à Nouvelle-Delhi de sikhs jusqu'à la fin des années 90. Donc la question sikh aux Indes, c'est toujours question de délicat. Louis l'a précisé, au Canada, ils sont largement présentés dans la banlieue de Vancouver et de Toronto. Ils passent pas inaperçus, c'est une communauté, c'est très serré.
Ben, ils ont un porte-parole, là. Ils ont maintenant quelqu'un de très visible à la personne du chef du NPD.
NPD. Effectivement. Et M. Trudeau, pendant la dernière campagne électorale, les a beaucoup flattés, jouant un peu sur deux tendances en tant qu'ils respectaient la communauté sikh, connaissaient leurs droits et autres. C'était très mal interprété aux Indes, comme on appelle un appel à ce qu'on appellerait chez nous le séparatisme sikh, finalement. Et là, dans sa dernière rencontre, parce que c'était pas prévu qu'il y ait une rencontre avec M. Modi, le haut commissaire canadien a tout fait pour qu'il y en ait une, pour que ça devienne à peu près un voyage officiel. Et il s'est fait vertement reprocher cette attitude ambivalente. Là, il a sorti, évidemment, qu'il était pour l'unité, etc., contre la violence, s'entendu des sikhs, des extrémistes québécois et autres. C'est là qu'il s'est mis les deux pieds dans le plat.
Comment il peut avoir organisé un tel voyage si c'était pas avec un but officiel, avec une délégation économique, une délégation politique? Comment il a pu dépenser autant d'argent? Parce que c'était ça a coûté très cher, ça, cet exercice-là.
C'est la confusion. C'est un homme, manifestement, qui est basé sur l'image. Il y a une charmante petite famille qui fasse beaucoup, évidemment, la conciliation famille-travail. On dit que c'est un homme qui travaille très peu en réalité. Il a voulu afficher sa belle famille dans un voyage magnifique aux Indes. Photos devant, évidemment, le Taj Mahal, à Benares, dans les monuments somptueux. Ça devait être un voyage privé. La meilleure preuve, c'est qu'il n'était pas accompagné de ministre. Il aurait dû au moins avoir deux ministres. Celui de l'agriculture. Pourquoi? Parce que sur les 8 milliards d'échanges commerciaux entre les Indes et le Canada, ce qui est une somme très faible, vu l'ampleur quand du même partenaire, c'est constitué essentiellement par des exportations de lentilles et de pois chiches. Et les Indiens veulent imposer une surtaxe sur les importations canadiennes. Ensuite, le deuxième modèle, et Pierre, tu sais bien, c'est la cybernétique. Balagar, c'est un des grands centres, la Silicon Valley des Indes. Ils sont extrêmement développés, avec des gens parlant toutes les langues, maniant parfaitement l'informatique. Un centre gigantesque.
On retrouve par probablement exemple, des centres de services téléphoniques.
Oui, par exemple, vous allez au Mexique, au Canada, votre valise est perdue. On vous donne un numéro de téléphone. Vous tombez sur quelqu'un à votre demande qui parle parfaitement français, qui règle la question de manière impeccable, et vous apprenez qu'il est en train de travailler à partir de Bombay. Donc, ils sont extrêmement... Donc, il aurait dû au moins avoir deux ministres dans ces catégories. Puis ensuite, évidemment, on ne confond pas voyage privé et voyage public. C'est son droit de prendre des vacances, mais un premier ministre est un chef. Donc, ça suppose des frais. Garde du corps, réception, déplacement, pour lequel il ne paye rien. Donc, ça coûte très cher pour les contribuables, pour de belles images de famille dans un pays exotique.
Parce qu'il aurait dû aussi avoir de prévu une rencontre officielle avec son vis-à-vis, le chef d'État indien aussi.
Celui-ci a refusé de le rencontrer au début de son voyage. Finalement, ça a pris beaucoup de démarches canadiennes pour une courte rencontre qui a été très froide. Et sans aucune chaleur et sans aucun résultat.
Ouais. Reste qu'un premier ministre comme celui du Canada a des comptes à rendre, pas juste sur ses voyages, mais sur les dossiers chauds de l'heure. Il y a un budget qui vient d'être adopté à Ottawa. Budget toujours déficitaire. On ne semble pas se préoccuper des déficits qu'on accumule d'année en année. Il y a aussi les relations avec les États-Unis, parce que les États-Unis sont à la veille de nous imposer une surtaxe sur le fer et l'aluminium, entre autres. Comment un premier ministre peut prendre le taureau par les cornes puis réagir par rapport à des situations où on est facilement critiquable?
Parce que malheureusement, il est en train de perdre la crédibilité. On a parlé un petit peu des costumes. Les Indiens ont un culte des mariages. C'est incroyable, un mariage indien. Quand c'est des riches, ils dépensent une somme folle dans les plus grands hôtels avec des centaines d'invités et des costumes flamboyants qui portent pas dans la vie toujours où l'habillement est très sobre. Donc, il a confondu costume d'opérette, de mariage. On se demande pourquoi il porte ça. Ça lui a donné un ridicule qui a été répandu un peu dans la presse internationale. Il a perdu de la crédibilité. Or, pour discuter avec M. Trump, ça prend quelqu'un d'énergique qui a beaucoup de crédibilité. M. Trump, qui a eu une première rencontre, il l'a trouvé sympathique, il l'appelle le kid, le gamin. Ouais. Mais évidemment, face à Angela Merkel, Macron, il ne fait pas le poids.
Ça avait été assez remarquable d'ailleurs, je ne me souviens pas à quelle rencontre, je pense que c'était à Paris, où c'est sa première rencontre à Washington, où il avait esquivé un petit peu la méthode habituelle de poignée de main de Trump. Il avait été un des premiers à le faire. Macron, je pense aussi, a fait quelque chose de semblable, mais avait un peu esquivé la manie que Trump a d'aller saisir la main de son vis-à-vis pour le retirer, avoir le contrôle sur la poignée de main. Et ça a fait jaser. Mais effectivement, on fait jaser de nous, pas pour les bonnes raisons à l'international. Mais je rappelle encore ce bulletin de nouvelles français que j'ai regardé où on était complètement ridicule. Ils ont pris beaucoup de temps dans ce bulletin-là pour donner toutes les réactions justement négatives chez nous pour dire qu'on ne soutenait pas notre premier ministre dans cette démarche-là. Et de tourner au ridicule sa manie d'utiliser à outrance sa belle petite famille pour
créer la sympathie. C'est certain qu'il a perdu une crédibilité initiale. Quand il a été élu, Il y a eu une bouffée de fraîcheur à l'étranger en disant, voyez, vis-à-vis de nos dirigeants qui sont vieux, qui sont apathiques, indifférents à la misère, apparaît un jeune homme compatissant, la lame aux yeux, toujours prêt à embrasser, à prendre les enfants dans ses bras, les causes désespérées, aimant tout le monde. C'est une bouffée d'air frais. Mais il faut pas non plus que ça tombe dans le ridicule. Il faut qu'il y ait du contenu derrière aussi.
OK, là, il y en a pas?
Jusqu'ici, il y a eu très peu de choses, de vision, de perspective, puis un dossier très chaud avec l'ANENA. Oui. C'est une guerre de tranchées.
Oui,
c'est pas une guerre qui va se faire avec des sourires et tout simplement avec certains accommodements superficiels.
Est-ce que le Canada est de taille dans ce dossier-là?
S'il annonce bien ses cartes, parce que Trump ne sera pas là de manière éternelle, Angela Merkel, le contre-parti, Macron, tout, parce qu'évidemment, Trump, il ne faut pas le heurter de front. Il déteste perdre la face. Par contre, hein, tête-à-tête et autres, il peut facilement, comme Trump connaît plus ses dossiers, être capable, évidemment, d'amortir les coins puis de négocier.
La légalisation de la marijuana fait probablement partie de son charme auprès d'une certaine clientèle.
Mais d'autant plus que balayé dans les provinces, les problèmes éventuels. Donc, une notion de principe Ottawa, puis les problèmes dans les provinces.
On a parlé de Trump rapidement, parce qu'il reste quelques minutes. Trump, en ce moment, a vu une crise assez majeure. C'est la première fois que les amis de l'establishment américain, la NRA, la National Rifle Association, le lobby des armes à feu, finalement, semble perdre son emprise. En tout cas, au niveau de la population, les pressions sont de plus en plus fortes après la tuerie de la Floride où des jeunes secondaires, si je me souviens bien, on parle de jeunes de 17 ans, ouais, effectivement, qui ont été massacrés par un tireur qui était armé d'une arme semi-automatique ou automatique. Ce genre d'arme-là, qui est devenu absolument inutile dans la société, à part que sur les champs de bataille, dans les conflits armés qui sont de moins en moins nombreux, heureusement. La population commence à réfléchir à changer les choses. Trump, il fait quoi là-dedans?
Il y a eu une très mauvaise réaction à la crise. Barack s'était présenté quand il y a eu le massacre dans une école primaire, les larmes aux yeux et autres, tout en sachant qu'il ne pouvait rien faire à cause du blocage des républicains au Sénat sur le moindre contrôle des armes. Trump a été ébranlé au début, il a simplement souligné que c'est un malade mental, on ne pouvait pas faire grand-chose. Ensuite, son visite en Floride dans deux parties de golf, c'était très froid.
Sa fameuse heure et demie d'écouter les parents, là, de façon très stoïque. Là.
Après ça, il y a eu la réaction. Première fois, un frémissement de jeunes qui ont pris la parole en disant qu'on était dans les classes, c'est absolument épouvantable, ça ne peut arriver, les parents et autres qui ont défilé en boucle. Puis également, des gens qui ont senti le vent. Walmart, par exemple, qui ont dit « fini mettant les armes d'assaut dans nos magasins », senti un petit peu le vent, lui a très mal réagi. Donc, finalement, il propose des petites mesures cosmétiques et autres qui changeront rien, puis il attend que la crise passe jusqu'au prochain massacre. Mais sa réaction, puis pas qu'il l'a conseillé, mais procédure pour réagir à la crise était très mauvaise.
Aller jusqu'à dire que ça prenait des armes au niveau des professeurs, du personnel de soutien des écoles, c'est stupide.
Même le garde de sécurité avec un pistolet ne fera pas le pas qu'une arme automatique, il ne fera pas tuer.
Il a même dit que lui-même, il serait rentré dans l'école.
Sans armes. Il serait arme ou pas, il serait rentré, lui aurait réglé ça.
C'est la fanfaronnade ridicule. Mais finalement, c'est le gros problème aux États-Unis, les armes. Au moins empêcher, rappelons qu'il y a 365 millions d'armes de guerre et de fusils de chasse, fusils de poing aux États-Unis. Il y a un habitant sur deux qui a des armes, donc souvent des enfants. Plus de 30 000 morts par année par les armes à feu, dont 3 000 enfants, dont 500 enfants qui se suicident ou adolescents par armes à feu. Et on en vend continuellement à chaque foire de plus en plus. Et comme vous soulignez, on pourrait au moins interdire les armes d'assaut. Ouais. Ça serait la moindre des choses.
Là, il y a son l'étau semble se resserrer aussi avec l'enquête sur l'intervention soviétique dans la dernière élection. Son gendre Jared qui s'est fait retirer les privilèges diplomatiques. Est-ce que c'est par ça qu'il va quitter ou si parce que vous l'avez mentionné tantôt rapidement qu'il sera pas là pour pour longtemps, mais ça fait un an qu'il est là. Il y a l'élection de mi-mandat qui arrive en novembre prochain.
Il peut pas être ébranlé. C'est-à-dire, il peut être ébranlé par l'élection de mi-mandat, mais son...
Il peut pas être éjecté.
Non.
Mais il peut être empêché.
Deux ans après, sauf que si c'est une majorité de démocrates, il va être paralysé, comme l'était Barack Obama avec une majorité républicaine. Donc, évidemment, c'est symptomatique de l'opinion. C'est un sondage à grandeur nature. Donc, il lui reste 3 ans environ. On ne sait pas s'il va se présenter. Il va avoir une question d'âge. Il ne se présentera pas pour être ridiculisé s'il ne peut pas passer. Chose certaine, aux États-Unis, c'est très tranché entre les pros et les anti-Trump. Les armes à feu sont un sujet de discorde. Il y en a d'autres. Et évidemment, l'entourage même, ça influence pas sa destitution. On lui le pad, donne un peu moins d'importance, laisse faire la commission d'enquête. Pour destituer un président, je vous rappelle que ça prend les 2/3 des votes du Sénat et de la Chambre des représentants, ce qui est pratiquement impossible à obtenir.
Si après ce qu'ils appellent les midterms, les Américains, là, de 2018, là, les élections de mi-mandat, au niveau du Sénat, entre autres, le Sénat peut changer. Alors, si le Sénat devient de plus en plus démocrate, alors, à ce moment-là, l'impeachment ou la destitution peut devenir envisageable.
Non, on ne prévoit pas qu'il y aurait de tels chiffres. Puis ensuite, c'est jamais, encore une fois, on le dit souvent, des partis politiques monolithiques. Il y a des démocrates qui sont très à droite, il y a des républicains qui sont plus libéraux. Donc, chaque sujet de loi, dossier important, c'est des négociations souvent à finir entre les différentes tendances. Donc, c'est pas des blocs homogènes et il n'y a pas de responsabilité de parti ou de discipline de parti dans un vote au Congrès américain.
On est pris pour l'endurer encore pendant 3 ans.
Ben, il fait ce qu'il veut.
Merci beaucoup, Hubert Vallée.
Ça me fait plaisir à nouveau.
Merci aussi à nos autres invités, Jean-François Daigle de la Corporation de développement communautaire de Pierre de Sorel et notre député fédéral, Louis Plamondon, qui demeure au poste. Bien fidèle à sa philosophie bloquiste, malgré le retrait de lui et de 6 autres de ses collègues du caucus du Bloc. Avec beaucoup d'émotion, il est venu en témoigner aujourd'hui.
Encore aujourd'hui.
Et on va lui souhaiter la meilleure des chances pour la suite des choses de ce côté-là, dans ce dossier-là. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Pierre.
Salut, Jean.
Je vais aller manger du gâteau.
Bye. Bye.